chers auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro du forum du Studio Kalangu. Et merci aussi de nous rester fidèles à travers nos 47 radios partenaires partout au Niger. Selon le PNUD, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et ont plus que doublé depuis 1990. Les dommages annuels moyens causés par les séismes, tsunamis, tempêtes tropicales et inondations se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Au Niger, les sécheresses, les dépressions démographiques et la désertification participent à une dégradation accélérée de l'environnement et menacent la sécurité alimentaire. Avec l'adoption fin 2003 de la stratégie de développement rural, les autorités nigériennes ont particulièrement mis l'accent sur les questions environnementales. Dans cette stratégie, on compte 5 programmes prioritaires qui touchent directement l'environnement, sur un total de 14 programmes. Le projet Kandaji, avec la régénération plutôt des écosystèmes et la mise en valeur de la vallée du fleuve Niger, est un exemple. Cet engagement national est également suivi par une implication des organisations des Nations Unies et des partenaires comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Quant aux sociétés civiles, les structures comme les Jeunes Volontaires de l'Environnement, l'ONG AEDD Agir pour un environnement et le développement durable militent pour un environnement sain. Des start-up comme Maptic n'hésitent pas à utiliser la technologie pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Mais pourtant, beaucoup reste à faire. À la date du 27 juillet 2021, le Niger a enregistré 3122 ménages qui ont été touchés par les inondations, ce qui fait un total de 25 819 personnes touchées qui sont devenues sinistrées. Quels sont alors les défis liés à la gestion du changement climatique au Niger ? Comment utiliser la technologie pour sauvegarder l'environnement? C'est le thème choisi pour l'échange de ce soir. Et pour en parler, nous avons comme invité l'ambassadrice Jeannette Rogen, qui est l'ambassadrice régionale du Royaume-Uni pour le climat, et Madame Fatma Alher, cartographe numérique et directrice de Maptic. Et aussi, on note la présence de Monsieur Hamani Dari, coordinateur de l'ONG AEDD, Agir pour un environnement et un développement durable. Quant à moi, je suis Samira Rafi pour la modération de ce forum. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir répondu présent pour ce forum qui, sans vous, n'aurait pas lieu. Alors, l'objectif 13 du programme des Nations Unies pour le développement vise à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour répondre aux besoins des pays en développement et contribuer à atténuer les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Pour rappel, plus d'une vingtaine de COP ont été organisées et la dernière est en date, c'est celle de la Pologne, la COP 25 à Madrid en Espagne. Cette année, en novembre 2021, aura lieu le COP 26 en Écosse. Alors, ma première question s'adresse à vous, Madame Jeannette. Quel est le bilan, selon vous, de ces conférences des parties?
Qu'est-ce que nous voulons...
Quel bilan faites-vous de cette conférence, les COP, qui ont été organisées depuis 1995 à aujourd'hui?
Bon, depuis 2015, quand nous avons eu l'accord de Paris, jusqu'à maintenant, ça normalement c'est 5 ans entre les grands COP où on fait les rapports et on regarde qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il reste à faire, on peut dire. Mais c'était nécessaire de rapporter la COP un an à cause de COVID. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je dirais à ce moment, il y a plusieurs crises dans le monde. Il y a la crise climatique, il y a la crise sanitaire, il y a une chute globale économique et maintenant, il y a aussi une crise, je dirais, dans le développement durable. Donc là, nous parlons d'une COP, un processus au niveau global, dans un environnement global où il y a beaucoup, beaucoup de crises. Donc, je pense que c'est vraiment important cette fois à la COP de rendre compte de tous ces problèmes et de dire là, nous avons l'accord de Paris. Nous avons réussi un peu, mais vraiment pas assez. C'était une grande réussite d'avoir une conscience de tout le monde, de chaque gouvernement dans le monde en 2015, que le changement de climat était quelque chose vraiment qu'il faut intégrer dans ces planifications. Il faut vraiment bouger pour changer les choses. Mais maintenant, depuis là et maintenant, il y a tous ces problèmes qui sont là au niveau mondial. Et quand nous réunissons au mois de novembre à Glasgow, il faut vraiment réfléchir. Quel est notre niveau d'ambition maintenant pour les 10 ans qui restent pour l'accord de Paris, déjà c'est jusqu'à 2030, aussi à 2050. C'est le moment pour décider le net zéro, comme on dit. Et comment est-ce que nous allons vraiment être capables de changer nos habitudes, de changer nos programmes, de changer nos plans, et au niveau du gouvernement, et au niveau de la population, et au niveau du secteur privé, pour vraiment faire un impact sur le réchauffement. Parce que ce n'était pas assez jusqu'à maintenant. Donc, COP26 sera vraiment un moment très, très important pour relancer avec un nouvel enthousiasme, on dira, mais aussi une nouvelle urgence.
Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice régionale du Royaume-Uni pour le climat. Au niveau de votre organisation, quelles sont les actions que vous menez ?
Nous, comme être présidence de la COP26, c'est un peu comme être la présidence dans l'ONU. C'est d'encourager tous les pays partenaires. C'est aussi pour être un bon exemplaire. Par exemple, le premier ministre Boris Johnson, il a dit que le Royaume-Uni va faire son présidence par être un bon exemplaire. Il a, par exemple, doublé le chiffre de finance climat pour les prochaines 5 ans, jusqu'à 11,6 billions de livres sterling. Et pour les dernières 5 ans, par exemple, c'était 5,8 billions de dollars. Donc là, pour le Royaume-Uni, ça, c'est quelque chose. On a doublé vraiment le financement climat. Même temps, il a dit, par exemple, qu'à part 2030, tous les véhicules qui sont vendus au Royaume-Uni seront électriques. Plus de véhicules carburant, imagine. Ça, c'est énorme. Ça, c'est quelque chose vraiment pour la population au Royaume-Uni. Ça, il faut penser un moment. Là, c'est une politique, une stratégie vraiment, vraiment ambitieuse. Et il y a beaucoup d'implications et beaucoup de choses avec ça. Donc, ça va, tout le monde doit être dans ce projet. Et tout le monde doit changer leurs habitudes, changer leurs avis. Bien sûr, ça, il faut beaucoup plus d'électricité. Il faut charger tous ces véhicules électriques. Donc, ça veut dire quelque chose. Donc, comme présidence, on essaie d'être un bon exemple aussi. Même temps, moi, je fais ce tour. Je suis là ici en Afrique. Pour ce moment, je vais tour du pays. J'ai commencé avec Afrique de l'Ouest. Je suis maintenant dans le Sahel, ici au Niger. Et j'ai continué, oui, pour encourager et les gouvernements, les partenaires, le secteur privé, les sociétés civiles, les communautés, les médias aussi, pour s'impliquer dans la préparation pour la COP. Il nous reste au moins de 3 mois, je pense, maintenant. J'espère que Son Excellence, le Président, va assister à la COP. Autant de présidents de Niger, bien sûr, mais aussi pour la commission du Sahel. Et cette fois, le 1er et 2e novembre sera la première fois que tous les chefs d'État et de gouvernement auront la possibilité de se réunir physiquement présents depuis le début de COVID. Et ça, c'est quelque chose d'énorme dans la vie internationale. Normalement, il y a beaucoup, beaucoup de conférences, de réunions, de choses. Même la grande réunion, l'Assemblée générale de l'ONU, cette année, sera virtuelle. Donc, cette COP, vraiment, c'est important pour beaucoup de choses. Et on peut, pour ça, je fais cette espèce de visite, cette sorte de visite, vraiment pour encourager les pays, les partenaires, de bien préparer pour la COP. Aussi, pour les questions de CDN, la contribution déterminée au niveau national pour encourager qu'il soit déposé. Il y a beaucoup de pays, Niger inclus, qui n'ont pas vraiment fini, qui n'ont pas déposé les CDN, ça doit être fait. Et aussi pour voir au niveau aussi du sub. Sub-région, de faire un peu de coordination, aussi pour présenter les problèmes qui existent en commun et de vraiment faire des bonnes présentations pour ça. Parce que c'est un moment vraiment où tout le monde, le monde entier vraiment va regarder cette COP. Et il faut pas laisser tomber cette moment.
Merci beaucoup. Je continue avec toi, Fatima Alher. Vous êtes cartographe et aussi spécialisée dans la cartographie numérique. Dites-moi, comment peut-on utiliser la technologie pour un développement durable?
Merci beaucoup, Samira. Donc la technologie, comme on l'a dit, c'est vraiment inévitable. Et la technologie peut être utilisée pour la prévention. Parce que maintenant, quand on regarde la question des changements climatiques, des catastrophes naturelles, c'est une question de gestion. La prévention est vraiment mise à l'écart. Alors qu'à travers les nouvelles technologies, on peut vraiment préparer déjà le terrain à travers la prévention. Ce que nous on fait à travers cette cartographie numérique, c'est vraiment de la cartographie numérique, mais aussi on essaie de préparer les gens, on essaie de les impliquer, on essaie aussi de les prévenir en cas d'une catastrophe ou bien comment se comporter quand on est face à, je sais pas, des changements climatiques ou bien en cas d'une catastrophe naturelle.
Alors, merci. Voilà. Monsieur Hamani Dari, vous êtes le coordinateur de l'ONG AUDD. Dites-moi, comment jugez-vous l'engagement des organisations internationales en faveur du développement durable ici au Niger?
Merci, Samira. Effectivement, nous, ce que nous voudrons aux organisations internationales par rapport à la gestion de l'environnement, il faut une application inclusive. C'est-à-dire que la pollution, la dégradation de la terre et ensuite les crises environnementales, il faut qu'elles s'impliquent, elles prennent ça en charge pour que vraiment on puisse atténuer notre une pollution de l'environnement, la dégradation de l'environnement et en se sens tenir compte de l'ensablement du fleuve Niger. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Regardez du Guinée jusqu'au Nigeria, notre fleuve est ensablé. Donc, les organisations internationales qui interviennent dans le cadre de l'environnement doivent s'impliquer avec toute une énergie dynamique, rentrer dans le dynamisme de développement de l'environnement pour qu'il y ait une ère, vraiment une ère acceptable, très acceptable, pour que l'endroit ne soit pas pollué. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Merci. Je reviens vers vous, Madame Jeannette. Dites-moi, comment ces décisions issues des différents COP depuis que vous êtes participant sont accueillies par les pays à faible revenu?
Bon, enfin, les décisions sont faites en commun, donc c'est fait par consensus, donc chaque pays est impliqué, et les pays développés et les pays développants. Mais si je retourne aux questions de finances, par exemple, là, les pays développés ont promis en 2015 de faire disponible 100 milliards de dollars chaque année pour les pays développants. En vérité, nous n'avons jamais atteint le 100 milliards de dollars, cette fameuse chiffre. Peut-être le plus, c'est à peu près 83 milliards de dollars. Mais je peux dire, ça c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas que l'argent manque, en effet. Le 100 milliards, c'est une question de foi, à mon avis. C'est quelque chose. Et comme la présidence britannique nous fait la pression vraiment sur les pays développés, que ça soit vraiment fait. Pas juste les promesses, mais physiquement là. Mais c'est une question d'accessibilité. C'est vraiment difficile à accéder aux fonds. Les fonds énormes comme ça, les grands chiffres au niveau global, parce que c'est vraiment technique. Il faut préparer les applications, les projets et les chiffres, les fiches techniques sont vraiment lourds. Les processus sont difficiles. Donc là, on a entendu beaucoup du pays développant. Moi, dans mes visites, j'ai entendu aussi qu'il y a beaucoup de problèmes là. Donc nous essayons avec les partenaires et les pays développants de chercher les moyens d'alléger les processus, de faire plus facile, de faire les liens entre les projets de développement durable et les projets de changement de climat, parce qu'en effet, c'est la même chose sur le terrain, c'est question d'adaptation et résilience. Donc, il faut assister les pays avec leur capacité de vraiment accéder aux finances. Donc, pour moi, j'espère que la COP26, tous les partenaires, tous les pays vont trouver un consensus pour alléger les systèmes, les processus pour accéder aux finances. Mais c'est tout le monde, c'est tous les pays qui doivent trouver leur consensus pour ça.
Ce qui m'amène à ma seconde question, pensez-vous que ces décisions qui ont été prises sont adaptées à tous les pays, comme par l'exemple du Niger, qui est un pays plutôt désertique?
Non, c'est comme je dis, éventuellement, les décisions qui sont prises sont acceptées par tous les pays partenaires. Donc, tous les pays et développants et développés et les pays vulnérables, les petites îles, etc. Donc, souvent, c'est pour ça les décisions sont un peu techniques. C'est parce qu'il faut, je pense, 197 partenaires. Plus si on ajoute aussi les partenaires non étatiques. Donc là, pour trouver le consensus, on fait des petits pas. Afin que tout le monde est là. Je peux espérer que nous allons avoir un bon niveau d'ambition cette fois et avec les décisions qui peuvent vraiment supporter les pays développants. Et ce continent, le continent d'Afrique, qui était beaucoup impliqué sur le dessin, par exemple, des ODD pour le développement durable et pour l'accord de Paris en 2015. Donc, faire les liens entre ces choses afin d'améliorer les processus, les vrais résultats sur le terrain, c'est notre objectif.
Merci. Je me retourne vers toi, Fatima Alher. Dis-moi, je rappelle aussi que tu es cartographe numérique. Sur le plan de la prévention, quels sont les défis liés à la gestion du changement climatique au Niger, selon toi?
Bon, je peux dire que les défis liés à ce changement climatique, c'est vraiment... D'abord, j'ai parlé de la prévention tout à l'heure, mais il faut aussi l'implication des locaux, mais aussi la technologie, elle est très importante. Elle est très importante dans le cadre où la technologie est devenue maintenant un outil inévitable. Et que si nous regardons dans les derniers rapports de la Banque mondiale, ils ont beaucoup parlé de la donnée. Et la donnée, elle est produite comment? Elle est produite à travers les technologies. Nous, ce qu'on fait... Et à travers cette technologie, à travers cette cartographie, c'est vraiment la collecte d'une base de données. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une décision ni une orientation sans une base de données. À travers nos outils qu'on utilise, c'est vraiment des outils libres, gratuits. Certains outils sont libres et gratuits, et qui nous permet vraiment d'avoir cette base de données qui est importante pour tout le monde, qui peut nous aider à prendre les décisions maintenant, mais aussi à faire des orientations très concrètes et à voir servir des zones qui ne sont pas servies, mais aussi des zones qui sont inaccessibles. Donc c'est seulement à travers la cartographie et à travers les technologies qu'on peut faire ce genre de travaux, qu'on peut impliquer et arriver à ces défis de changement climatique. Donc il faut beaucoup penser à ces outils qui sont vraiment importants, qui nous aident à vraiment faire cette prévention et qui ne sont pas des outils à négliger. Il faut vraiment les utiliser pour qu'on arrive vraiment à ces défis inévitables. Parce qu'on peut dire que les défis du schéma climatique sont vraiment inévitables. Donc, il faut utiliser les outils pour vraiment être à l'attente, quoi.
Le débat se poursuit dans les locaux du studio Kalangou avec nos invités. Je rappelle que nous sommes avec Madame Jeannette Logan, ambassadrice régionale du Royaume-Uni pour le climat, Madame Fatima Alher, cartographe numérique, et Monsieur Hamani Dari, coordinateur de l'ONG AEDD, Agir pour un développement pour un environnement et un développement durable au Tampoma. Alors, Madame Jeannette, comment est-ce que votre organisation accompagne l'État du Niger dans le déploiement de sa politique environnementale?
Oui, nous sommes ici, nous avons maintenant une ambassade résidente avec une ambassadrice ici au Niger. C'est la première fois, jusqu'à maintenant c'était non-résident. Donc ça c'est une grande chose, c'est le début d'un renforcement de nos efforts diplomatiques. Même temps, on commence avec des petits projets pour voir exactement comment nous pouvons assister le Niger. Et là, je voudrais aussi voir des progrès. Parce que là, si on marche avec le pays dans son plan national, au niveau national, il faut aussi voir quelles sont les priorités ici. Exactement. Par exemple, en regardant en avance, on peut voir la technologie solaire, par exemple, pour l'énergie. La transition juste pour l'énergie, à l'énergie renouvelable, c'est quelque chose de vraiment important pour les pays développants. Et là, au Royaume-Uni, nous avons beaucoup d'expérience, d'expertise, beaucoup de secteurs privés qui ont développé les moyens de faire en effet, ou les mini-grids, on peut dire les micro-réseaux, mais aussi les projets plus grands pour les centrales, etc. Ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante pour le futur. En même temps, je voudrais revenir juste à quelque chose que Fatima a dit au sujet de données. Là, j'ai parlé aux difficultés pour les projets à accéder à la finance et la fiche technique. Souvent, c'est un manque de données, un manque d'analyse. Et même si c'est au niveau bilatéral, comme notre ambassade, et un projet, petit projet là, ou même si c'est un très grand projet avec Banque mondiale ou les autres fondateurs, là, c'est vraiment important d'avoir les données. Et les bonnes analyses. Donc là, je vous félicite et je vous encourage pour ça. Parce que sans ça, on ne peut pas procéder.
Merci beaucoup. Ma seconde question vous est destinée, Monsieur Amani Dari. Dites-moi, pensez-vous que ces événements internationaux ont un réel impact dans la lutte contre les changements climatiques?
Oui, les événements internationaux amène beaucoup de changements dans la lutte contre le changement climatique. Effectivement, comme madame est en train de dire, comme COP26, effectivement, si tous les États s'impliquent, il peut y avoir une politique pour changer le changement climatique, si tout le monde s'y met. Parce que aujourd'hui, les grands événements, c'est à partir des grands événements que les grandes décisions les gens de décision vont s'orienter. Et les grandes politiques on va prendre les grandes politiques pour aboutir au changement climatique. C'est pour cela les grands événements, c'est très important, on doit les encourager pour qu'il y ait une décision politique pour qu'il y ait un changement climatique. Oui.
Ma seconde question vous est destinée, Madame Jeannette. Dites-moi, est-ce que globalement, est-ce que vous êtes satisfait de tous ces COP qui sont organisés?
Bon, les conférences, ça se passe chaque année, en effet. Et il y a, nous décidons quel pays va être la présidence et on essaie, mais c'est un processus. Le processus continue entre les COP, les conférences de 2 semaines. Ça, c'est en effet le sommet de tous les travaux. Mais ça implique beaucoup de choses dans l'année. Il y a des campagnes pour la nature et la biodiversité. Il y a les campagnes pour le reboisement, comme nous avons fait aujourd'hui. C'est la fête nationale et de planter les arbres. Et j'ai fait planter un arbre ce matin, une moringa. Et c'est bon. Donc, il y a beaucoup de campagnes pendant l'année. Et les, les travaux des négociateurs, les négociations formelles sur le système pour le changement de climat, ça continue aussi durant l'année. Et puis, nous avons cette 2 semaines qui vraiment, c'est la culmination de tous leurs efforts. Et on est toujours fiers d'être la présidence, d'être là avec tous les invités qui vont venir. Et surtout, cette fois, il sera à Glasgow, en Écosse. C'est au nord du Royaume-Uni. Et là, je parie, on ne peut pas avoir beaucoup de réchauffement de climat au mois de novembre. C'est hiver pour nous. Donc, mais quand même, je rigole, mais c'est important. Et là, mais ce qui est important aussi, la COP 27, la conférence après celle-ci, sera, la présidence sera un pays africain. Et le pays africain, la présidence sera choisie et votée par consensus pendant la COP 26. Donc là, nous commençons en vérité notre présidence avec la conférence. Ça continue dans l'année et il y aura un partenaire, un pays africain qui va être en attendant, c'est la présidente désignée qui va et jusqu'à novembre l'année prochaine, donc novembre 2002 sera le COP 27 pour un pays africain. Donc pour nous, le Royaume-Uni, on pense aussi que c'est une grande opportunité de faire un lien entre l'Afrique et faire une continuité dans les idées que nous avons eues pour COP 26, de pousser en avance avec plus d'ambition et puis avec le continent le plus touché par le changement de climat, l'Afrique, qui est le président après, qu'on peut vraiment faire une bonne transition là entre les deux présidences. Je pense que c'est vraiment important. Et pour nous, ça va continuer avec un plus profond partenariat, je dirais, entre nous, le Royaume-Uni et les pays de ce continent.
Merci. Alors, oui. M. Amani Dari, vous partagez les mêmes satisfactions que Mme Janet?
Oui, je partage les mêmes satisfactions que Mme Janet parce que comme elle disait, c'est à partir des événements de COP, des conférences, que les décisions, les campagnes de sensibilisation, les campagnes de reboisement, les campagnes de désassemblement du fleuve Niger, c'est-à-dire les grandes politiques, c'est à partir de ça que les gens vont décider pour voir comment atténuer le changement climatique. Donc je partage les mêmes idées. C'est pour cela et les COP, COP 26, et vraiment, je souhaite qu'à partir du COP 26, que vraiment qu'il y ait un rendement très efficace pour le changement climatique. Je partage ces mêmes idées, effectivement, et j'apprécie Mme Janet et du courage et dans le même élan. Merci.
Merci. Je continue avec vous, Mme Fatima Alher. Dites-moi, les travaux de ces rencontres prennent-elles en compte la dimension numérique dans la prévention du changement climatique, selon vous?
Selon moi, je peux dire oui, parce que je me rappelle en 2015 et j'ai participé à une carte du changement climatique. C'est une carte mondiale. J'ai été désignée en tant que jeune qui représente le Niger. Donc, c'est une carte mondiale du changement climatique qui a été créée. C'est avec l'appui de l'UNICEF. Et cette carte consiste vraiment à cartographier les liens qui sont visibles ou bien qui sont sensibles au changement climatique. Donc, on a fait le projet ici au Niger, mais en même temps dans les autres pays. Parce que dans la carte, vous allez voir, c'est tous les pays, et ce sont des jeunes comme nous qui sont derrière la carte, qui essayent de mettre, d'ajouter des images de leur quartier, de leur pays, de leur village qui sont inondés, qui sont coupés par les eaux. Et là, avec des vidéos en appui. Et là, moi qui est au Niger, je regarde ce qui se passe dans les autres pays et je vois en même temps les solutions qui ont été adoptées pour régler le problème qui a été visé ou bien le problème qui a été filmé ou bien le problème qui a été senti par cette communauté. Et nous, ici au Niger, on a essayé de faire la même chose. On a choisi Zander et on était parti. On a vraiment fait des images, des photos et tout ça, c'est avec l'appui de l'UNICEF. Et j'étais la chef du projet et on a fait une carte mondiale. On a essayé d'ajouter et tout ce qu'on voit en termes de signes de changement climatique au Niger, on s'est appuyé aux inondations. Donc, on a pris des photos sur les inondations, on a ajouté sur la carte mondiale. Dès que vous cliquez sur la carte mondiale, vous allez voir, il y a des images qui sont, il y a des vidéos qui vous montrent que vraiment, la technologie a été appliquée et utilisée pour lutter ou bien pour faire la gestion et la prévention de ces inondations. Et nous, après 2015, on a essayé de nourrir cette carte et d'essayer de faire notre propre carte. Là, on a utilisé les outils libres qu'on appelle UMAP, tout récemment avec les inondations de 2020. Les gens ne se trouvent pas parce qu'il y avait eu des inondations à Harobanda. Mais quand on regarde, on voit que c'est tout le Niger qui a été inondé. Et alors que c'est une commune qui a été inondée. Et nous, la carte qu'ils ont utilisée en 2015 nous a donné l'idée de faire une carte en ligne qui permet à ces gens qui sont à l'extérieur et même aux gens qui sont à Niamey d'utiliser la carte et d'être précis pour savoir, faites attention, tel quartier est inondé, telle voie a été coupée. Et vraiment, la carte a été nourrie d'une manière bénévole, participative. Et la carte, c'est une carte vraiment en ligne qui a été même appréciée au monde entier parce que même la France 24 l'avait appréciée. Parce que c'est une carte que quand vous regardez, ça vous donne l'aspect, ça vous donne une explication de ce qui se passe dans votre commune ou bien dans les quartiers qui ont été inondés. Et ça vous donne l'idée d'aider ou bien d'éviter les zones qui sont en danger. Donc, je crois que la technologie vraiment est utilisée et j'encourage à l'utilisation de cette technologie et à l'utilisation de ces nouveaux outils numériques, mais surtout la cartographie. Parce que la cartographie nous donne une précision exacte et ça nous permet aussi de participer, quel que soit l'endroit où on est dans le monde.
Merci. Alors, merci. Le monde continue de traverser une période assez critique avec la pandémie de la COVID-19. Madame Jeannette, pensez-vous que cette pandémie n'aura pas un impact sur le prochain COP26?
Le COVID a déjà eu un impact vraiment parce que la COP26 devrait être en 2020. Et c'était rapporté, non, à cause de COVID. C'est comme ça, c'est cette année 2021. Et il y aura, c'est toujours en crise. Là, en Europe, il y a toujours le confinement à la maison et beaucoup d'endroits sont fermés. On n'a pas le droit de voyager n'importe comment. Mais quand même, le Premier ministre a dit il est déterminé que la COP soit physiquement présent, physiquement là, pas virtuel. Et on fait toutes les préparations nécessaires pour que ça soit fait en toutes les conditions sanitaires. Et nous encourageons fortement, encourageons les délégués de se faire vacciner. Et même nous avons essayé, il y a un système avec l'ONU pour faire les vaccins à travers le COVAX pour ceux qui ont besoin dans les pays où ils ne se sont pas vaccinés pour le moment. Et aussi de faire dans les lieux de la conférence que ça soit vraiment sanitaire pour tout le monde et pour la population autour, parce que là, il y a peut-être, je ne sais pas, 5 000 visiteurs à travers le monde. Mm-hmm. Donc, ça, pour la population autour, c'est aussi important. Et là, on essaie. Mais je veux dire un mot. Il y a un virus. Mm-hmm. C'était vraiment, vraiment difficile pour le monde entier. C'est une pandémie. C'est unique. Hein. Il y a des choses, il y a un moment, il y a quelque chose vraiment terrible qui se passe. Mais quand même, il faut avoir confiance au vaccin. Il faut avoir confiance dans les mesures sanitaires qu'on prend et il faut les respecter. Si on a la possibilité de se faire vacciner, je fortement encourage tout le monde de se faire vacciner et de continuer de respecter cette virus. Parce que vraiment, il y a des variants maintenant, ça change tout le temps. Mm-hmm. Quand même, c'est un virus. Éventuellement, nous allons recommencer avec une vie plus ou moins normale. Mm-hmm. Mais pour le moment, il faut respecter cette virus parce que c'est vraiment difficile. Ça a été difficile. Donc, ça, c'est pour les logistiques, on peut dire, pour la conférence. Mm-hmm. Mais ça a aussi touché les travaux, les préparations, en effet, les négociations substantives, mm-hmm. parce que c'est vraiment difficile de faire les négociations à distance, virtuellement. Il mm-hmm. y a la question de décalage, question de connexion Internet. C'est vraiment difficile. Mais là, il faut continuer. On ne peut pas arrêter parce que le changement de climat n'arrête pas.
Mm-hmm. Merci. Je continue avec vous, Monsieur Amani Dari. Dites-moi, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette prochaine COP26?
Oui, nous avons beaucoup d'attentes à la prochaine COP26 parce que nous pensons qu'à partir de cette COP, que nous revenons à net zéro par rapport au changement climatique, et qu'il n'y a plus de dégradation des terres, que notre fleuve retrouve sa valeur d'entente et que le reboisement d'antan dont nous connaissons la forêt, qu'il y a une forêt forte dans tous les pays, et ensuite que nos faunes aussi retrouvent les différentes espèces dont nous connaissons avant, reviennent, parce que la déforestation aussi ça joue sur la vie des faunes. Donc on pense qu'à partir de la COP26, qu'il y ait des grandes décisions, une politique pour orienter les pays envers la lutte contre le changement climatique.
Oui. Merci. Et vous, Fatma Aller, avez-vous des attentes particulières par rapport à cette COP26?
Oui, je le dis et je le répète. Nous attendons vraiment que cette COP26 donne des orientations, surtout aussi la prévention. Parce qu'on sent que la question de la gestion, la gestion, la gestion, la gestion, nous on veut vraiment la prévention et on veut voir plus d'espaces verts dans nos pays africains ou bien dans le monde entier. Il faut que ces espaces verts se multiplient. Il faut qu'on voit que vraiment ça change, la donnée a changé. Comme Mme Jean vient de le dire, le changement climatique ne s'arrête pas, ça continue. C'est à nous de s'adapter. Donc pour s'adapter, il faut vraiment penser à cette question de prévention. La prévention, ça nous aide, parce que ça nous aide à se préparer psychologiquement. Et quel que soit ce qui va arriver, quand on se prépare, les risques seront vraiment, je ne peux pas dire, les risques ne seront pas énormes, mais on peut les maîtriser. Voilà, c'est ce que j'ai.
Merci. Dites-moi, Madame Jeannette, est-ce que vous avez un message ce soir à l'endroit des populations qui nous écoutent partout au Niger?
Ah oui, bon, ça c'est une bonne question. Oui, je vous écoute, je peux dire. J'ai entendu beaucoup ici, dans quelques jours, à Niger. Et même aujourd'hui, avec les jeunes activistes, avec la société civile, la technologie, la passion pour la biodiversité, pour les faunes, pour les espaces verts. Nous vous écoutons. Et là, c'est ce que je vais transmettre moi-même à mes ministres à Londres qui sont en train de préparer la COP. Les attentes de l'Afrique sont énormes, en effet, pour cette COP. Et il faut un message d'espoir après la COP et un espoir pour relancer plus fortement sur la lutte et pour la prévention. Madame Fatima est totalement correcte. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est chacun d'entre nous, et les gouvernements et la population. Et de faire ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement et niveau national. Je vous écoute. Et je vais transmettre ces idées et ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté ici à mes collègues à Londres. Et comme ça, nous pouvons mieux comprendre la position, pas seulement la position nationale du Niger, mais de la population. Et les attentes, les espoirs de cette population qui est jeune, qui a beaucoup d'espoir, qui a beaucoup de possibilités, qui veut la paix, qui veut la progrès, qui veut le développement durable. Donc là, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, excusez-moi en français, et on va espérer d'essayer de avoir des conclusions et un accord vraiment équilibré de cette COP qui va vous donner aussi l'espoir et l'action.
Merci. Monsieur Amandari, avez-vous un dernier mot à ajouter avant qu'on ne se quitte?
Et moi, ce que j'ai à dire à Madame Jeannette, effectivement, la COP qui va se tenir, la COP 26 qui va se tenir, en tant qu'ambassadrice, il faut impliquer les organisations internationales pour que les préventions des crises du changement climatique, elle puisse prendre ça en charge.
Un peu plus dans le micro.
Nous pouvons prendre ça en charge correctement. Et ensuite, nous qui sommes les organisations très jeunes qui agissent dans le cadre de l'environnement, il faut nous donner une ouverture de coopération pour que nous aussi, on puisse amener notre contribution dans les décisions de COP26 qui va se tenir. Et ensuite, mon message par rapport, par rapport à la COP Kunko, nous attendons beaucoup des attentes positives pour que vraiment notre environnement soit un environnement vivable. Voilà ce que je peux dire.
Et vous, Fatma Alher, avez-vous un dernier mot à ajouter avant qu'on se quitte?
Oui, bien sûr. Et là où j'insiste aussi, c'est l'implication des jeunes. Les jeunes vraiment doivent être vraiment impliqués dans les activités ou bien dans les événements des COP, mais aussi les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui ont des idées innovantes. Nous, ici, à MAPTIC, on fait vraiment. On peut dire qu'on est une entreprise sociale. Parce qu'on forme des gens gratuitement pour juste pour contribuer au développement du pays en ayant des bases de données. Parce que quand on parle de la cartographie, on parle de la base de données. Donc, j'encourage vraiment et je demande l'implication de ces entrepreneurs, de ces jeunes, parce qu'on a des idées. Il faut juste nous écouter pour qu'on puisse et dire ce qu'on a et l'idée de dire pour mettre ça en pratique. Parce que ce n'est pas juste nous écouter, mais aussi comprendre ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire. Donc, c'est le dernier mot que j'ai à dire. C'est vraiment de nous aider et de vraiment impliquer les jeunes dans la prévention, mais aussi dans les préparatifs, mais aussi dans les événements de ce COP. Merci beaucoup.
Merci à vous, amis auditeurs et auditrices, surtout spectateurs. Nous sommes à la fin de ce forum. Merci d'avoir été des nôtres. S'il y a une chose que nous pouvons retenir, bien que ça n'a pas été trop débattu dans ce débat, c'est que l'action de l'homme reste la plus grande menace sur le climat. Pour lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques, les COP sont utiles et l'utilisation de la technologie permettra également de prévenir les catastrophes et aussi de mieux gérer les actions de protection de l'environnement. C'est la fin de ce forum de César. Restez fidèles au programme du Studio Kalangu. Nous étions plutôt en compagnie de Madame Jeannette, ambassadrice régionale du Royaume-Uni pour le climat, Madame Fatima Alher, cartographe numérique et directrice de MAPTIC, et de Monsieur Hamani Dari, coordinateur de l'ONG AEDD, Agir pour un environnement et le développement durable. C'était Samira Rouafi pour la modération de ce débat. La technique vidéo a été assurée par Al-Mustapha Ayouba et la régie son a été assurée par Abdoulaye Yakuba. Merci à tous et bonne semaine de l'indépendance.